Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de la saison 3 de Sacré Numéro, le podcast de l'Ennéagramme. Alors j'ai la chance d'accompagner beaucoup d'entrepreneurs et même d'être professeur à l'Université de Toulon dans le cadre d'un diplôme d'entrepreneuriat. J'ai donc pas mal creusé la question de l'Ennéagramme et du fait d'entreprendre. Avant de nous lancer dans le lien entre chaque profil et ses capacités d'entreprendre, je me suis posé la question de pourquoi j'avais l'impression que beaucoup d'entrepreneurs, en se lançant, commencent à travailler sur eux. Autrement dit, est-ce que l'entrepreneuriat est un moyen d'avoir accès au développement personnel ? Il est vrai que l'aventure entrepreneuriale n'est pas de tout repos et elle vient activer chez nous, en interne, nos schémas et nos peurs fondamentales. Alors, en creusant un peu plus, on peut voir que l'entrepreneuriat vient activer plusieurs modèles de psychologie. Encore une fois, j'ai dû en choisir quelques-uns. J'ai choisi celui de la théorie de l'auto-efficacité d'Albert Bandura. Cette théorie, elle suggère que la croyance d'une personne en sa propre capacité à accomplir une tâche, ça va affecter sa performance. Les entrepreneurs ayant une forte auto-efficacité sont plus enclins à entreprendre des actions, à persévérer face à l'adversité et à réussir en fait. Autrement dit, l'auto-efficacité a un lien avec la confiance en soi. Plus nous avons confiance en nous, plus nous allons nous mettre en action et donc forcément il n'y a que ceux qui font qui réussissent hein, et donc plus nous allons réussir. Vous imaginez les conséquences que ça peut avoir ? Comme nous avons pu le voir au travers de tous les épisodes, on n'est vraiment pas tous logés à la même enseigne en question de confiance en soi. Nous pouvons aussi parler de la théorie de la motivation intrinsèque d'Edward Deci et de Richard Ryan qui disent que les entrepreneurs intrinsèquement motivés, donc en interne, c'est-à-dire des entrepreneurs qui trouvent du plaisir et de la satisfaction dans leur travail, sont plus susceptibles, encore une fois, de persévérer dans leur entreprise. Cette théorie, elle met en avant l'importance de la passion et de l'engagement personnel, mais surtout de ma théorie ou de mon concept préféré qui est l'alignement dans l'entrepreneuriat. Plus vous vous connaissez et plus vous pourrez vous faire confiance et donc faire confiance à vos envies, à vos décisions. L'entrepreneuriat, c'est clairement pas un long fleuve tranquille. S'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent là, vous le savez. Et donc, on peut faire écho à la théorie de l'évitement de la perte de Tversky et Kahneman. Et cette théorie, elle suggère quoi ? Elle suggère que les entrepreneurs, ils sont plus enclins à entreprendre pour se protéger des risques, donc éviter des pertes, plutôt que de rechercher des gains. Et ça, je trouve ça intéressant parce que je pensais que c'était plutôt l'inverse, en fait. Et pour finir, hein, entreprendre, c'est aussi faire des deuils. Alors là, je vous renvoie à l'épisode en question et à notre lien avec le deuil. C'est aussi être résilient. Alors, résilient, c'est quoi ? C'est savoir rebondir face à l'adversité, je devais le dire très rapidement. Et là-dessus, je vous conseille évidemment tous les ouvrages d'un de mes maîtres à penser, Monseigneur Boris Cyrulnik, sur le sujet. Alors, ces modèles, comme celui de l'Ennéagramme, il peut permettre de nous sentir moins seuls et surtout de comprendre pourquoi on agit comme ça ou comme ça. En fait, notre fonctionnement qui nous paraît assez logique, il n'est pas le même que notre collègue d'à côté qui va entreprendre. Et donc, avoir des modèles, ça peut nous rassurer. Ils peuvent nous donner des clés pour mieux comprendre en se respectant, en respectant son rythme et surtout en s'éloignant de l'image instagrammable que l'on peut voir partout dans l'entrepreneuriat qui est de bosser H24, de faire un business qui marche en automatique, de choisir entre valeur et succès. Comme s'il n'y avait qu'une façon d'entreprendre. Et évidemment, je ne partage pas cette vision, vous le savez. Mon mari est entrepreneur, moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis entrepreneurs. Et du coup, j'ai croisé beaucoup d'étudiants qui étaient aussi entrepreneurs. Et je peux vous dire que nous nous organisons et nous gérons nos entreprises de façon tellement différente. Et d'ailleurs, bien souvent, nous ne sommes pas le même ennéatype. Et pourtant, nos entreprises, elles marchent toutes. Et du moment que nous faisons les choses en conscience de qui nous sommes, nous allons donc avoir un comportement adapté. Adapté à quoi ? À nous, à nos forces, à nos potentiels. Donc clairement, moi, ce que je vais faire, ça va être par rapport à mon fonctionnement, donc ça va marcher pour moi. Mais ça ne marchera pas pour le voisin d'à côté. Et donc c'est pour ça que pour moi, il y a un lien évident entre entrepreneuriat et développement personnel. Et dans développement personnel, vous y mettez ce que vous voulez. Moi, j'y mets une meilleure connaissance de soi. Alors, comment on entreprend quand nous sommes un profil 1 ? Ce sont des profils qui sont plutôt consensueux, hein, des entrepreneurs consensueux, axés sur la qualité du travail rendu, alors ça c'est sûr. Ils sont attentifs aux détails, ils ont un fort sens de la responsabilité et ils sont motivés pour créer des entreprises qui reflètent justement cette qualité de travail et leurs normes élevées. Ils vont avoir tendance à travailler seuls parce que la délégation, c'est plus compliqué par rapport à ces fameuses exigences-là. Ce sont des entrepreneurs qui ont de grandes capacités de travail et vont devoir se mettre des limites. Horaires, charge de travail, souvent ils vont faire parce qu'ils doivent le faire, mais pas parce qu'ils en ont envie. Ils vont devoir se reconnecter au pourquoi de l'entrepreneuriat afin de pouvoir réellement profiter de ses avantages. Et oui, flexibilité des horaires, prendre des vacances, choisir ses méthodes de travail ou ses collègues par exemple. Les profils 2, eux, ils peuvent réussir en tant qu'entrepreneurs et souvent ils créent des entreprises axées sur le besoin des autres en développant des relations clients très fortes. Ils vont avoir du mal à porter des projets seuls dans le temps. Quand il est seul, il va s'essouffler et il va avoir besoin d'un entourage présent ou d'une équipe. Alors s'il ne peut pas avoir d'équipe, je conseille aux deux d'aller dans des coworks par exemple. Sinon, il va avoir beaucoup d'idées qui ne tiendront pas dans le temps. Et comme à son habitude, le 2, il peut se perdre dans les projets des autres. Alors si le 2, il va au cowork, il faut aussi qu'il s'isole des fois pour bosser sur ses projets, hein, parce qu'il va pouvoir très vite aider l'autre, évidemment, pour ne pas se mettre en action lui. Ça fait parler, on retombe sur la peur, hein, comme à chaque fois. Et donc, le 2, vraiment, ça peut être un bon binôme ou un excellent associé, par exemple. Les 3. Les 3 sont souvent des entrepreneurs orientés vers les objectifs, axés sur la réalisation et désireux de réussir. Alors, on met ce qu'on veut derrière réussir, encore une fois. On n'est pas que sur des questions d'argent. Ils se mettent des délais et ils les tiennent. Ils peuvent monter plusieurs projets en simultané pour s'assurer de leur réussite. Ils peuvent entreprendre seuls ou à plusieurs, tant que la dynamique, elle est efficace pour lui, en fait. Il peut se retrouver dans des projets qui ne lui ressemblent pas trop, mais qui a une belle visibilité et ça lui suffit. Du moment que ça fait sens pour qu'il puisse atteindre ce qu'il s'était fixé sous le mot de réussite. Ça, je trouve ça assez intéressant parce que le profil 3, typiquement, c'est quelqu'un qui va pouvoir faire quelque chose qui ne lui plaît pas sur le moment, mais qui sait qu'il va avoir un fort impact plus tard. Si je prends un exemple concret, c'est je sais, un profil 3 qui fait de la formation. Il va évidemment avoir aucun plaisir à passer le certificat Calliope, mais il va le faire parce qu'il sait que ça va lui amener, ça va faire réussir son business. Voilà, un exemple. Alors, le profil 3, lui, encore, il va devoir définir ce que c'est que pour lui sa réussite, la réussite de son entreprise. Et il a une grande capacité de travail et il peut se perdre dans le travail pour prouver qu'il est une personne de valeur. Aujourd'hui, en France notamment, on définit beaucoup sa valeur par son travail. Et donc, il peut vraiment se renfermer là-dessus. L'entrepreneur 3, il peut donc se définir plutôt par son projet que par qui il est réellement. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, on dit souvent qu'on mise plutôt sur le porteur de projet que sur le projet en lui-même. Donc, à bon entendeur, les profils 3. Les profils 4, eux, c'est plutôt des entrepreneurs innovants, hein, qui peuvent créer des entreprises qui se démarquent par leur originalité, leur singularité. Ils vont vouloir chercher un concept différenciant, des fois un peu trop, les éloignant du réel besoin du client. Le 4, il aime travailler seul dans son entreprise ou avoir un rôle que seul lui peut tenir. Il va être assez doué en personal branding, il va savoir raconter des histoires, il va savoir emmener les clients. Et donc, on va venir le chercher plutôt pour lui, pour sa personnalité, que pour son concept. Il va laisser ses émotions au centre de décision, ses émotions au centre de ses décisions, et pourra se laisser déborder par des questions de délai, d'organisation. Bon, là, je vous renvoie à l'épisode sur la gestion du temps. Il peut vite se lasser, c'est pas assez intense, et pouvoir passer rapidement à une autre idée sans lui avoir laissé le temps ou même la chance de réussir. L'entrepreneuriat peut être difficile pour le profil 5 et surtout quand il se lance. Il est vrai que cet exercice d'entreprendre demande de savoir faire plusieurs choses en simultané, ce qui n'est clairement pas la force du profil 5. Étant un peu monosujet, les entrepreneurs 5 qui réussissent sont ceux qui trouvent un sujet de niche, où ils seront vus comme des références en termes d'expertise sur le sujet. Ils vont plutôt s'orienter sur des activités analytiques, de recherche, de formation, de conseil. ça va leur permettre de pouvoir mobiliser à la fois toutes leurs compétences et d'être focus sur un sujet majeur. Et donc, ça facilitera sa mise en action. Le 5, ça peut être aussi être un bon associé si leur place et leur expertise est mise en avant et reconnue. N'oubliez pas, le 5, il veut être reconnu pour sa compétence. Le 6, lui, va soit avoir tendance à tout sécuriser et donc à prendre du temps à se lancer, donc soit sauter dans le vide sans prendre le temps de préparer. Coucou le contrephobique. Le 6, il peut entreprendre uniquement s'il développe sa confiance en lui, comme d'autres profils, hein. Sinon, il va vite pouvoir être paralysé sur les risques possibles, sur ses méga scénarios catastrophes et avoir du mal à être dans l'action. Forcément, quand on voit tout le pire qui peut arriver, ça donne pas trop envie d'y aller, quoi. Il va s'entourer de quelques personnes de confiance et dans ce cadre, il pourra être un bon binôme si on lui laisse le choix de faire comme il le souhaite, surtout au niveau de son éthique, de ses valeurs, de sa méthodologie de travail. C'est un entrepreneur qui saura créer de la stabilité et rassurer ses clients. Ben, c'est d'ailleurs pour ça qu'on viendra le voir. Souvent, le 6, ses clients peuvent le dire « j'ai confiance en toi, donc je viens te voir toi ». Les profils 7, ça va être des entrepreneurs rebondissants et aventuriers. J'avais lu ça quelque part, ça m'avait fait sourire, donc je le remets ici. Ils peuvent être des entrepreneurs orientés vers l'innovation, évidemment, le plaisir et l'exploration de nouvelles opportunités. La stabilité, évidemment, pour eux, c'est pas trop leur fort. Ils vont avoir du mal à gérer les contraintes que peuvent amener le fait de devoir gérer une entreprise ainsi que les responsabilités. Et donc, ils vont pouvoir vite ruminer et être en colère. Ils doivent se faire plaisir pour permettre à leur projet de pouvoir durer dans le temps. Sinon, il ne pourra pas y travailler au quotidien et d'où petite colère au quotidien, petite rumination et il ne va pas entreprendre avec ses forces en fait. Là, il sera plutôt dans ses parts d'ombre. Il aura besoin de bouger, d'être en mouvement, de changement pour ne pas s'ennuyer. Et il devra faire un effort sur la rigueur, mais aussi sur la procrastination autour des décisions et des tâches rébarbatives pour lui. Mais aussi des décisions difficiles, comme mettre fin à un projet, par exemple. Et là, ça renvoie à l'épisode sur le deuil. L'objet de l'entreprise du 8 sera d'avoir un impact fort, puissant, en gros d'avoir du pouvoir. Il va pouvoir entreprendre en tant que leader dans une équipe ou seul, afin de pouvoir mener sa barque comme il l'entend. Les 8 sont des entrepreneurs assez visibles, qui prennent de la place et qui font bouger les choses. Ils doivent être sensibles à laisser la place aux autres pour bien entreprendre et ne pas paraître trop. Même des fois, ils peuvent paraître trop pour leurs clients, vous voyez. Ils peuvent prendre trop de place et ils ne s'en aperçoivent pas. Pour finir, le 9, il peut entreprendre, mais à son rythme. Ils peuvent être des entrepreneurs qui cherchent à créer des entreprises favorisant la collaboration, le beau, l'équilibre. Quand ils ne sont pas alignés, ils vont le ressentir rapidement. En interne, ils vont avoir comme un malaise sans pouvoir le verbaliser. Et là, je vous renvoie ici à l'épisode précédent sur les émotions. C'est là qu'ils peuvent prendre du temps pour prendre une décision et se positionner, alors qu'en interne, ils savent qu'il y a un truc qui ne va pas, hein, ils le ressentent. Le 9, il peut se perdre dans ses multiples projets et mettre du temps pour passer à l'action. Le temps du 9 n'est pas le temps de son client et il doit être vraiment sensible à ça. Il peut être un très bon binôme, s'il est avec quelqu'un qui lui laisse de la place, du temps, mais aussi qui sait le bouger pour se mettre au mouvement. Bon, vous l'avez compris, tous les profils peuvent entreprendre, mais à leur manière. Apprenez à vous connaître, à vous appuyer sur vos zones de lumière et à être vigilant évidemment à vos zones d'ombre. Pour ma part, je vous dis merci de m'avoir suivi dans cette 3e saison et j'ai hâte d'être à la 4e. Là, actuellement, je ne sais pas encore comment elle va se dessiner et se formaliser. Je vais laisser venir les choses et je reviens rapidement vers vous. En attendant, merci pour votre soutien et à très vite pour continuer l'aventure ensemble de Sacré Numéro, le podcast de l'Énéagramme. C'était Camille Ganet, toujours passionnée, pour vous rendre accessible le plus simplement possible le modèle de l'Énéagramme. À très vite !